Je me présente à vous en qualité de président de l'association pour la restauration du donjon de Coucy-le-Château, dont le site internet est accessible à l'adresse www.artdoc.com. Afin d'exercer un droit de réponse à une émission sur Arte France invitant au voyage à Coucy-le-Château. Ce droit de réponse a été demandé au président de la République et au président de Arte. Dans l'attente de cette possibilité sur une chaîne publique, l'Ardoc se doit d'agir dans le cadre de son objet social, qui est de restaurer le donjon de Coucy pour la paix en Europe. Elle est officiellement déclarée et connue de l'Europe puisque l'association est admise à Europa Nostra. Pourquoi intervenir? Car cette émission est offensante, calomnieuse, diffamante pour les Picards, ainsi que pour tous les citoyens français, car Coucy leur appartient, mais aussi pour l'Europe entière. Pour l'Ardoc, elle n'est pas en adéquation avec ce qu'il convient de dire et faire pour les générations futures. Elle va donc ici vous présenter ses commentaires quand cette émission d'invitation au voyage. En premier lieu, un petit commentaire sur le titre, puis des remarques sur les séquences de l'émission, qui sont quatre. La première, Coucy, au pays des guerres et invasions. La seconde, tout commence au XIIIe siècle avec un vilain ambitieux. Troisième, au XVIIe siècle, un roi veut écraser Coucy, mais n'en fera rien. Au XIXe siècle, le succès touristique dû au romantisme. En cinquième séquence, le début de du XXe siècle, la destruction du château. Après, un grand silence radio. Les développements de tous ces points seront un peu longs et il me faut vous remercier pour votre attention en vous rappelant que les propriétaires de Coucy, c'est vous. Commençons par le titre. En français, ce titre est « Un Picard voit grand, très grand ». En allemand, « Les Picards ne font pas les choses à moitié ». Dès l'introduction, une appréciation très divergente montre la nécessité d'une réflexion. Pour la France, s'exprime un dénigrement, une aversion à la grandeur, alors que pour les Allemands, c'est la propension, la recherche, l'attention à la grandeur. Pour les vrais Français, notre âme aspire à la grandeur, pas à l'abaissement, pas à la ruine, ni à la pusillanimité. Comment éduquer nos enfants dans une perspective d'attrition et désolation. Abordons la première séquence, le pays des guerres et des invasions. Pour faire venir des touristes, il aurait été opportun de montrer une carte et d'exposer pourquoi ce pays eut à subir tant de misère. Coucy n'est pas un trou perdu, c'est un relief en plein centre de l'Europe et les invasions y ont été nombreuses, car c'était un pays riche et développé. Il est malhonnête de dire que tout commence au XIIIe siècle, c'est occulté plus d'un millénaire. La région était riche et peuplée bien avant l'an zéro de notre ère. Jules César reconnaîtra que c'est dans cette France-Belgique qu'il a failli être battu. Les premiers siècles seront ici prodigieux, car vont se mêler deux peuples, les Francs et les légionnaires romains devenus agriculteurs pour fournir du blé à Rome. Au Ve siècle, Clovis va passer et cantonner avec ses troupes à Coucy. Car pourquoi? Pourquoi? Car sa troupe avait besoin de s'approcher à couvert au plus proche des deux légions romaines qui contrôlaient Soissons et la France. Cette possibilité lui a été octroyée par l'évêque de Reims qui, natif du pays, lui a ouvert les portes. Sa victoire à Soissons se concrétisera par son onction royale à Reims, par Saint-Rémy, auquel Clovis attribuera en remerciement la propriété officielle de Coucy. Par la suite, les rois mérovingiens vivront principalement dans cette proche région. Puis y succéderont les Carolingiens. Charles Martel, Pépin le Bref, Charlemagne avaient leur palais principal à moins de 20 km de Coucy. Charlemagne sera baptisé à Noyon. C'est lui qui fera l'Europe, non pas pour sa gloire personnelle, mais parce que valeureux et avisé, il sera soutenu par de très nombreux seigneurs et surtout par toute la chrétienté. L'Europe, c'est lui. Les Capétiens qui suivront seront des proches du même tonneau. Là où Charlemagne fut baptisé, Hugues Capet sera consacré roi de France, à 20 km de Coucy, en l'église, en la cathédrale de Noyon. Du Xe au XIIIe siècle, la lignée des Enguerrand sera faite de chevaliers croisés formidablement formés aux combats lointains et qui verront les premières forteresses édifiées là-bas pour contrer l'islam et ses terribles cavaliers. Mais c'était aussi des seigneurs proches de la population locale qui sera la première au monde à être libérée du servage. Enguerrand III est le bâtisseur de Coucy, qu'il réalisera en 5 années. Mais pas seulement. Il a construit des châteaux forts à Marle, Saint-Gobain, Folembray, sans que personne ne trouve à redire quant à ses dépenses disproportionnées. Coucy abritait même une communauté juive, très heureuse et certainement large en avance préfinance envers son protecteur. Pour l'administrateur du château, c'était un grand baron très ambitieux et avec du sang royal dans les veines, assurément détestable. La vérité est tout autre. À la bataille de Bouvines, que les historiens reconnaissent avoir été la fondatrice de la nation française, il a été le sujet fidèle de Philippe Auguste, qui venait d'hériter de toute la province du Vermandois et qui apposera le nom d'Auguste à son nom simplement pour faire comprendre qu'il était le seigneur de Saint-Quentin qui s'appelait alors Augusta. À Bouvines, il est attribué en Enguerrand III le haut fait d'avoir désarçonné Otto de Brunswick, empereur du Saint-Empire germanique. Qui peut croire qu'il était seul dans cette bataille? Non, personne. Sa troupe était en première ligne, par position naturelle, puisqu'elle protégeait les troupes royales de l'île de France. Jamais Enguerrand III, l'affreuse ambition, n'a voulu combattre le roi de France à qui il avait prêté allégeance. L'allégeance était un sacrement extrêmement solennel. On pouvait ambitionner, voire comploter, mais combattre était totalement proscrit. L'ambition prétendue d'Enguerrand s'appuie sur une interprétation très fallacieuse de la part de l'administrateur du château sur le « ni roi, ni duc, ni comte aussi sire de Coucy ». Par là s'affirme seulement que le seigneur d'un lieu et d'une population n'a point besoin de titre pour construire. C'est l'affirmation de la citoyenneté audacieuse et libre qui a la responsabilité de se défendre et de protéger son patrimoine. Cette proclamation est sans doute gênante pour le Centre des Monuments Nationaux qui a une grande propension à faire à croire qu'il est seul à bien savoir gérer et valoriser le patrimoine national. Pour finir de réduire ce grand bâtisseur, il est avancé que comme cette construction avait coûté fort cher, elle n'a jamais été dépassée. D'où vient cette allégation? On aimerait des preuves. Cette forteresse colossale n'était en fait que plutôt rudimentaire au plan architectural. À l'époque des grandes cathédrales, oser avancer cette énormité manque de sérieux. La restauration non plus ne sera pas onéreuse, mais les grands architectes stipendiés trouveront toujours un moyen de prétendre que cela coûtera très cher. Après Enguerrand III l'ambitieux et dépensier, on saute directement en 1652, plus de 2 siècles après. La vérité oblige de montrer le contraire, car dans cette période intermédiaire, la gloire de Coucy et de ses seigneurs atteindra son sommet par des poètes, par le jugement de Saint-Louis contre Enguerrand IV, puis avec Enguerrand VII. S'appuyant toujours sur son peuple à qui il accordera encore plus de liberté, il renforcera son armée et sa place au sein des grandes familles d'Europe. N'était-il pas le petit-fils de l'empereur Habsbourg du Saint-Empire germanique, mais aussi par un mariage d'amour, et oui, un mariage d'amour, le gendre du roi d'Angleterre. Il sera, au XIVe siècle, le faiseur de paix partout en Europe sans jamais trahir son roi. Ses deux filles seront après les mères de toutes les lignées encore régnantes en Europe. Omettre cette phase dans l'histoire, c'est profondément attentatoire au Picard. Un vilain qui voulait donner le monde, Enguerrand 7, non. Il aurait pu, mais ne l'a jamais fait et n'a utilisé sa force que pour faire la paix. Du 14e, on saute à 1652. La manipulation historique vise là à trouver un bouc émissaire pour justifier l'état de ruine, puisqu'il aurait été promulgué un édit prévoyant de raser Coucy, ce qui n'a jamais été fait. Cet édit date de l'exacte période où Louis XIV, devenu majeur, affirmera sa souveraineté et sa puissance et marquera la fin de la Fronde. La Fronde, par son appellation même, marque bien que la période ne fut ni une période de guerre ni d'invasion, tout au plus une période de troubles et d'enfantillage, mais pendant laquelle le peuple a beaucoup souffert de misère et de l'absence d'un pouvoir central fort. Pourquoi le raser Coucy ? Les périodes de régence sont des phases critiques dans les monarchies. La France en a connu plusieurs, celle de Marie de Médicis à la mort d'Henri IV, puis celle d'Anne d'Autriche à la mort de Louis XIII. Ces reines étrangères, très liées aux grands prêteurs d'argent étrangers, n'étaient guère populaires. Marie de Médicis a tenu le pouvoir, cependant, alors que le frère aîné de Louis XIII, né d'une liaison de Henri IV avec Gabrielle d'Étré, reconnu par le roi duc de Vendôme et d'Étampes, pouvait prétendre à la régence. Ce grand seigneur est né à Coucy. Il épousera la fille de Marie du Luxembourg, seigneur majeur sur un grand périmètre du nord de Picard de la France, et souveraine sur Coucy. Cette rivalité rejaillira sous la régence d'Anne d'Autriche. Mazarin sera appelé d'Italie pour récupérer un peu les prêts et imposera des taxes et impôts et autres mesures contre les juges et les parlements, qui mécontenteront profondément le peuple de Paris. Louis XIV se souviendra de sa fuite à Saint-Germain-en-Laye et de son coucher sur des ballots de paille. Mazarin sera contraint de s'exiler à plusieurs reprises, mais eut une inspiration heureuse. Il mariera sa fille aînée avec le fils du duc de Vendôme, le natif de Coucy. La prétention des grands se réduira donc, et pour l'annonce de sa majorité, Louis XIV rappellera Mazarin, son parrain, qui, pour bien signifier que la Fronde populaire et sérionale était finie, fit savoir qu'il allait raser Coucy, où restait une toute petite troupe dont les capitaines hésitaient entre les camps. C'était une menace symbolique, comme un ultimatum. La Fronde s'arrêta immédiatement et il ne fut plus nécessaire de toucher au monument. Cet édit est doublement important. Il rappelle la place première du monument et la puissance royale qui sera immédiatement confirmée par Louis XIV, par le fameux « l'État, c'est moi ». Le monarque, c'est lui, le protecteur du peuple et du patrimoine, personne d'autre. De 1652, on saute directement au XIXe siècle pour évoquer le succès touristique de Coucy. Le survol de cette période est aussi très marqué d'idéologie et de malice. On découvre deux grands et beaux portraits, alors que tous les anciens personnages d'avant ont été juste esquissés. Ces deux personnages, c'est Louis-Philippe et Viollet-le-Duc. Mais qu'ont-ils fait pour Coucy ? Louis-Philippe, souverain, en serait devenu propriétaire, mais pas plus que tous les citoyens français d'aujourd'hui. Quant à Viollet-le-Duc, l'architecte, il a juste fait une étude complète et pré-professionnelle et un projet de restauration susceptible de valoriser encore mieux ce site. Pour sécuriser le donjon, faisant apparaître une fissure due à un tremblement de terre au XVIIe siècle, il cerclera la tour de manière très visible pour apaiser les craintes éventuelles des visiteurs. Pourquoi donner tant d'importance à ces deux personnages, alors qu'ils seront vilipendés par la Troisième République. Pour Louis-Philippe, c'est probablement pour faire à croire que les monarques s'approprient les biens du peuple. Quant à Viollet-le-Duc, c'était certes un bon architecte, mais opposé à la politique culturelle républicaine, et il fut donc condamné à s'exiler. Pour autant, Coucy deviendra le troisième monument le plus visité de France, et non le cinquième. Ce classement, avancé par le Centre des monuments nationaux, se situe après l'édification de la Tour Eiffel. La construction d'une ligne de chemin de fer par une société privée sera effectivement un moteur de développement touristique important pour tout le secteur. Pourquoi la République qui chérit tant la SNCF ne l'a pas remise en état? Le présentateur d'Invitation au voyage attribue le succès touristique à la nostalgie des ruines, un romantisme intellectuel, passionnel, aujourd'hui inexplicable. L'explication est parfaitement trompeuse, car l'ensemble était debout et par les deux ruines arrange le présentateur qui pense sans doute qu'en réveillant ce romantisme, il va faire venir des visiteurs. Cherchez l'erreur. Le monument était alors superbe, même sans les habillages envisagés par Viollet-le-Duc. La région était prospère et les revenus tombaient directement dans les caisses de l'État républicain. Pourquoi n'est-il pas fait aujourd'hui d'études économiques sérieuses à partir des chiffres de l'époque? Que veut-on cacher? La dernière séquence sur le XIXe siècle couronne toutes les précédentes par son absence de perspective et d'analyse sérieuse. On évoque deux hypothèses pour expliquer la destruction, sans même donner de date, sans même citer le tonnage colossal d'explosifs brisants qui ont été nécessaires. Surtout, on ne dit rien sur le maintien en ruine. Depuis un siècle, pas plus qu'on ne parle des dégradations et défauts d'entretien de la perte et la perte économique. L'Ardoc œuvre pour la paix entre les peuples et pour la construction européenne, sans a priori idéologique et clivant. Elle veut que les citoyens récupèrent leurs biens. Les peuples n'ont pas voulu ça. En effet, Coucy n'avait alors aucune importance militaire, et l'argument spécieux d'une volonté d'abattre la fierté féodale française fait rire autant que pleurer. La Première Guerre mondiale s'est passée plus d'un siècle après la fin de la monarchie en France et plus de quatre siècles après la fin de la féodalité, dont le Oser Coucy marque le terme. Pour tout ce qui concerne cette période, l'Ardoc renvoie à ses articles rassemblés sous le chapitre « Vers la vérité » de son site. L'Ardoc se doit de dire ce qu'elle pense de la démarche du Centre des monuments nationaux. Non, ce n'est pas en dénigrant le Picard que vous ferez venir les touristes. Non, les seigneurs de Coucy n'étaient pas des vils ambitieux, brutaux et dominateurs. Non, Louis XIV n'a pas voulu raser Coucy. Non, l'intérêt de Coucy debout ne provenait pas d'un romantisme des ruines. Non, la destruction ne cherchait pas à abattre la fierté féodale française. Maintenant, que penser de cette émission au XXIe siècle dans ce pays de France qui se glorifie d'avoir apporté les lumières au monde? On peut rêver mieux et même, en étant terre à terre, demander au Centre des monuments nationaux plus d'action et plus de grandeur d'âme.